anniversaire.
Allez, vas-y, générique.
Mesdames et messieurs,
France Bleu au Cerf.
Dans quelques instants,
10h, 11h,
vous allez pouvoir entendre.
L'art, la vie.
Parler, c'est un art. Tout le monde va parler.
Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons comme invité?
Les gens d'ici. Johan Kerpeyron. Il y a très longtemps, il y avait quelqu'un à qui je tenais. C'était un partenaire, quelqu'un sur qui je me devais de veiller. Et dans ce monde, ce genre de merde n'apporte qu'une chose, se faire buter. Alors évidemment, sorti de son contexte, ça aurait tendance à faire frissonner. Surtout que vous avez pour habitude d'entendre la femme vermisseau que je suis déclamer en début d'émission un vers, un sonnet, une citation d'un homme ou d'une femme nettement plus gradé que moi dans le monde de la culture. Mais je n'ai rien trouvé de mieux que cette citation issue de The Last of Us, un jeu vidéo, un des plus ludique, paraît-il, selon certaines critiques. C'est l'occasion justement de retourner ça dans tous les sens avec cette rencontre qui va avoir lieu en direct jusqu'à 11h sur France Bleu Auxerre. Un consultant qui va nous ouvrir les portes d'un imaginaire de pixels et accessoirement celui de son jardin à peine secret. Bonjour Gaëtan Verdichisi.
Bonjour.
Journaliste indépendant, consultant en histoire et culture du jeu vidéo, mais aussi fondateur du site Pixel et Bœuf Bourguignon. Tout un programme. Aujourd'hui, à notre époque, quand, à l'occasion d'un verre, d'une soirée, d'un dîner, vous présentez votre pédigré, est-ce que vous vous entendez plus souvent dire « Waouh, c'est génial, qu'est-ce que tu dois t'éclater dans la vie ?» Ou est-ce que vous entendez « Ah, mais c'est bien, mais qu'est-ce que vous faites en vrai dans la vie ?»
On me demande plutôt ce que je fais en vrai. C'est un métier un peu obscur, un métier qui n'existe pas, comme j'aime bien le dire. J'ai inventé mon métier parce que c'était plus simple que d'en trouver un qui me convenait. Et je me suis basé sur d'autres personnes du milieu qui ont fait ça aussi, puisque le jeu vidéo c'est quand même un média assez jeune. Et donc moi j'ai 31 ans et à l'âge que j'ai, il n'y avait pas d'école de jeux vidéo, etc. Donc on a un peu construit ça avec ce qu'on pouvait.
Et est-ce que le regard du public, et notamment des plus grandes générations qui râlaient déjà quand le flipper faisait trop de bruit au coin du bar ou la console des mômes braillait trop fort dans le couloir, est-ce que ce regard a changé parce que le jeu vidéo a pris de plus en plus de place et a vraiment montré que c'était un objet culturel avant tout?
Alors il y a toujours des réfractaires, mais c'est quand même passé de sous-culture à pop-culture. Donc aujourd'hui, même certains qui étaient réfractaires à l'époque jouent aujourd'hui. Parce que le jeu sur téléphone, ça compte, le jeu sur Facebook, ça compte. Donc ça fait quand même pas mal de joueurs.
Qu'est-ce qui vous agace d'entendre encore aujourd'hui, d'entendre dire à propos du jeu vidéo Gaëtan Verdichisi, ça sert à rien, c'est trop violent, ça abrutit, ça isole, ou encore pire d'entendre dire, comment qu'on fait pour mettre sa pile en mode Tekken Force au Dr Brokonovich sur Tekken 3, un jeu qui date de 1997?
Jolie référence. Ce qui est le plus énervant, c'est pas forcément les réfractaires, parce qu'on s'est un peu habitué à leur, on va dire, leur dialogue. On sait comment leur répondre. Ce qui est un peu énervant, c'est de voir aussi l'inverse de gens qui disent, par exemple, pour la violence dans le jeu vidéo, que non, il n'y en a pas du tout. Donc oui, il y en a. Non, il n'y en a pas dans tous les jeux non plus. Mais prendre du recul et essayer de considérer ça comme ça peut être le cas avec une autre culture. Quand on dit j'aime pas les jeux vidéo, moi je dis c'est comme si vous dites j'aime pas les films. C'est qu'on vous a pas montré les bons.
Tout simplement, le danger des jeux vidéo était qu'ils vous coupaient du monde extérieur, le charme des jeux vidéo était qu'ils vous coupaient du monde extérieur. Dixit Harlan Coben, alors il n'y a plus aucune raison qu'on ne se fasse pas du bien, que nous n'élargissions pas notre perspective sur ce drôle de divertissement. On parle de jeux vidéo à l'occasion de cette journée mondiale qui leur est consacrée ce samedi, et en compagnie d'un érudit en la matière, le journaliste et consultant Gaëtan Verdichisi, l'invité des gens d'ici jusqu'à 11h sur France Bleu Auxerre.
Les gens d'ici, 10h, 11h.
Gaëtan, il n'y a qu'à regarder sur votre site internet pour découvrir que vous n'êtes pas le geek qui squatte un sous-sol chez ses parents en guise de QG pour faire des tutoriaux de jeux vidéo. Vous êtes plutôt branché atelier jeunesse, conférences, expositions, même atelier à l'attention des personnes âgées. D'où ça vient, si ce n'est cette passion pour les technologies, les nouvelles technologies, ce besoin de partager avec les autres, hein?
Le jeu vidéo, j'aime bien y jouer, mais surtout j'aime bien en parler. Et j'aime bien l'écrire, c'est pour ça que je suis journaliste indépendant. Mais quand on l'écrit, on n'a pas forcément de réponse. Et du coup, j'aime bien le côté plutôt découverte, rencontre. Et justement, faire découvrir aux non-joueurs des jeux qui peuvent vous intéresser et aux joueurs des jeux que peut-être eux ne connaissent pas.
Comment vous êtes venu cette passion pour le jeu vidéo? C'est parce que vous êtes de cette génération-là ou parce que vous êtes né dans un cocon propice avec le vieil Amstrad qui prenait la poussière dans le grenier ou ce genre de choses?
Mon Amstrad prenait pas la poussière parce que mon papa avait un Amstrad. J'ai commencé là-dessus, avec un Amstrad à cassette depuis que je suis tout petit. Au départ, c'était une passion et puis avec le temps, le jeu vidéo a grandi en même temps que moi. Et j'ai fini par voir qu'il y avait une possibilité de faire de ma passion mon travail.
Et savoir aussi qu'au-delà de la mécanique, il y avait autre chose derrière, donc justement cette notion de partage, mais aussi de savoir que ça allait forcément évoluer, qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui serve un petit peu de pont, de passerelle.
En fait, au début de mes temps sur Internet, j'ai découvert les forums de rétro gaming et je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul à aimer les vieux jeux. C'est comme ça que ça a démarré. On s'est rencontrés en vrai, etc. Tout ça, c'est devenu avec le temps mes amis. Et en tant que entre guillemets spécialiste de vieux jeux vidéo, ils ont été contactés par des structures de type médiathèque, bibliothèque pour organiser des expos et des visites guidées d'expos. Et en fait, on m'a démarché comme ça au départ en me disant bah tiens, j'ai un copain qui travaille dans une bibliothèque. Il fait une expo, est-ce que tu voudrais venir faire une visite avec moi ? Ça me suis rendu compte que bah ouais, il y a pas que moi que ça intéresse, y compris les non-joueurs, et qu'il y a peut-être quelque chose à faire.
Alors depuis quelques années, vous organisiez avec l'association Creusotine, du nom de votre adresse bourguignonne, si je me trompe pas, Gaëtan, le Nostalgeekend, salon sur les années 90, est placé sous le signe de la convivialité du jeu vidéo. Maintenant terminé, est-ce que ce n'est pas un petit peu dommage de voir certaines choses qu'on a créées et peut-être un petit peu sous le sceau de la convivialité où on se réunit entre fans, devenir des choses un peu plus entre guillemets professionnelles et plus grand public avec des succursales à Dijon, Bordeaux, Nice, Cannes, par exemple.
On garde toujours cet aspect convivial, quelle que soit la taille. C'est pas une histoire de taille, mais plutôt d'esprit. Et ensuite, quand quelque chose s'arrête, c'est la bonne occasion de redémarrer quelque chose d'autre.
Le mois dernier, vous receviez un prix, Gaëtan, le prix de l'Académie des sciences, arts et belles lettres de Dijon, d'être lauréat, salué par ses pairs pour un travail, un mémoire en l'occurrence. C'est autant une récompense pour vous, Gaëtan Verdichizi, mais aussi ce que vous représentez.
C'est une récompense pour moi, qui va donner un beau coup de pied à mon CV, mais c'est surtout la preuve que l'Académie reconnaît le jeu vidéo comme une nouvelle pratique scientifique et culturelle, et donc ça va permettre de faire avancer le média au-delà des réfractaires. Maintenant, quand on dira oui mais jeu vidéo etc, on peut citer l'Académie comme étant quand même une entité reconnue. Dit oui mais l'Académie a dit ça, alors peut-être qu'il y a quelque chose à en tirer.
J'ai le pins.
C'est un peu ça, ouais.
Gaëtan Verdichizi est l'invité de France Bleu Auxerre dans Les gens d'ici jusqu'à 11h, l'occasion de parler de jeux vidéo à l'occasion de cette journée mondiale consacrée à ce divertissement sous toutes ses formes. Au départ, il y avait le Flipper, entre autres. On va en parler à travers nos reportages d'ici quelques minutes. À tout de suite. All good children need traveling shoes. Drive your problems from here. All good people read good books. Now your conscience is clear. I hear you talk, girl. Now your conscience is clear. In the morning when I wipe my brow. Wipe the miles away. I like to think I can be so willed and never do what you say. I'll never hear you and never do what you say. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be. Twist in my sobriety, more than twist in my sobriety. We just picked a little empty pie for the fun the people had at night. Late at night, don't need hostility. Timid smile and pause to free. I don't care about their different thoughts. Different thoughts are good for me. Up in arms and chasing home. All God's children took their toll. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hand. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety, more than twist in my sobriety, more than twist in my sobriety.
walking, you pig out till you've seen the light. Pig out till you've seen the light. F the people, read the papers, read them good and well. Pretty people, nervous people, people have got to sell. News you have to sell. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn right from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety.
Anita Tikaram avec Twist in My Sobriety sur France Bleu Auxerre. Dans les gens d'ici ce matin, nous parlons des jeux vidéo. C'est la journée qui leur est consacrée partout dans le monde. Et à cette occasion, nous faisons le point sur cette passion en compagnie de notre invité Gaëtan Verdichizi.
France Bleu Auxerre. France
Bleu. Et au commencement était le baby-foot, puis vint le flipper et enfin la borne arcade pour faire de ce monde un monde parfait dans les cafés, salles de jeux, bowling, etc. Mais saviez-vous que ceux qui entretiennent encore ces fabuleuses machines sont installés à Auxerre, au numéro 2 boulevard d'Avoue, non loin d'ici d'ailleurs. Et c'est là que nous nous sommes arrêtés pour partir à la rencontre de Michel Lourdin et son associé du magasin Jeannot et compagnie, véritable temple pour tous les amateurs de machines, au nombre visuel mais au plaisir unique, celui de jouer. C'est parti pour une visite dans l'atelier de ses réparateurs et collectionneurs.
Qui a travaillé, je vais vous présenter.
C'est impressionnant parce que là, c'est une caverne d'Ali Baba pour tous les passionnés de jeux en tout genre, on peut dire, parce qu'il y a autant du jeu vidéo que du flipper.
Là, ici, c'est plutôt un atelier flipper, mais oui, en jeu vidéo, bon, c'est plus tellement en vogue le jeu vidéo en lui-même, dans les cafés et trucs comme ça, mais c'est surtout la partie flipper et puis aussi la partie gros jeu qu'on a surtout au bowling ou quelque chose comme ça. Quoi.
Bonjour.
Jacques,
je peux vous demander ce que vous êtes en train de faire?
Ben là, on assure la réfection d'un billard américain, donc un billard avec des trous, et qui a quelques années, et ce qui fait qu'on est obligé de recouvrir à nouveau les bandes et surtout de changer les profilés caoutchouc qu'on a là, qui vont donner un meilleur rebond et donner une nouvelle vie au billard. Il va repartir à neuf. Il faut compter une bonne dizaine d'heures de manœuvre, à peu près.
Donc, il y a du billard, il y a du jeu de fléchettes, il y a du flipper, et vous faites tout en ce qui concerne la réfection, ou est-ce que vous, chacun, un petit peu sa spécificité?
Je fais un peu tout quand même, multitâche quoi.
Ce que vous préférez, c'est justement ce genre de choses un peu plus artisanales comme le billard?
Alors, c'est intéressant surtout, c'est ce qui fait qu'on est encore là au bout de 40 ans, c'est que quand on fait ça, on peut penser à plein de choses, on peut écouter la radio. France Inter d'ailleurs.
C'est la même maison, on n'est
pas
jaloux.
Oui, je sais, mais c'est pour ça que je le dis, ouais, c'est pour ça. Donc c'est pas mal, ça, moi je trouve ça dès là, c'est agréable. Ça change du dépannage de cartes électroniques qui des fois, certaines complexités, certaines prises de tête.
Je vois les affiches, ça peut paraître un détail, mais entre L'Arme Fatale 3, ouais. Star Trek, Dracula et autres, j'ai l'impression qu'on est un peu dans une ambiance un peu particulière. Je ne vais pas utiliser le mot geek.
Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les fabricants de flippers, au départ, enfin si on veut dire tous américains, se sont toujours inspirés du monde du cinéma. Ou de la BD. Donc tout ça, en fin de compte, ça représente des photos de flippers qui ont existé il y a quelques années.
Ça, c'est vraiment tous ceux qui sont en attente de passer à la réparation. En réfection, on dit.
Donc vous avez aussi des simulateurs de conduite qu'on exploite dans les cafés, au bowling encore, ou voilà, au karting, à Auxerre. Il n'y a quasiment que ça qui est encore en activité dans les cafés, parce que les bornes où il y avait éventuellement des jeux vidéo style mythique, Pac-Man, Donkey Kong, bah, ça ne marche plus du tout. C'est surtout le patron de café qui fait que le jeu va bien marcher ou pas. Si le patron de café est plus joueur de billard que flipper, un truc comme ça, c'est spécifique à l'établissement, à ses horaires aussi, parce que forcément, le soir, les gens sont plus enclins, par exemple, à jouer aux fléchettes ou au billard, ce qui n'est pas le cas du flipper, où la journée, un seul joueur peut jouer tout seul dans un café, un truc comme ça.
De retrouver un jeu de fléchettes ou un bon vieux flipper dans un café, il y a un côté nostalgique qui est énorme, on ne peut pas s'empêcher d'y jouer.
Oui, mais la partie flipper, maintenant, revient à la mode. Il y a pas mal de flippers qui reviennent dans les cafés, ouais.
Il y a le visuel aussi, on en parlait tout à l'heure avec votre collègue, c'est vrai que le visuel fait déjà partie du jeu.
Ah, d'autant plus que là, depuis très peu, ils équipent les flippers de LED, donc ça fait une lumière totalement différente que des ampoules normales. franchement un côté attractif et très développé sur ce chez les Goof Flippers, quoi.
Vous me disiez, ça fait 40 ans que vous travaillez là. Vous avez, vous, des chouchous particuliers parmi toutes ces machines qui sont passées entre vos mains?
Bah forcément, je vous parlais des Donkey Kong, Pac-Man, même les Space Invaders, les premiers jeux vidéo. Voilà, ça faisait un tabac quand on mettait ça dans les cafés. Et puis, au niveau du flipper, moi, j'aime bien, effectivement, Indiana Jones. Voilà. Chacun peut avoir son modèle, comme dans les voitures, qu'il préfère plutôt qu'un autre.
Et là, d'un seul coup, le cœur de Michel bat de nouveau. Et si vous êtes curieux de voir à quoi ressemble le flipper Indiana Jones, les images du magasin Jeannot et compagnie sont disponibles sur le site France Bleu Auxerre, à la page des gens d'ici. Vous, Gaëtan Verdichizi, flipper, borne arcade, ça vous séduit encore ou est-ce que c'est devenu carrément un sujet d'histoire?
J'ai deux bornes à la maison.
Ah d'accord.
J'ai une borne
Lionel
classique.
Godino qui raye cette émission a levé son pouce. Je ne sais pas si c'est de l'envie ou si c'est pour dire félicitations.
J'ai une borne classique René Pierre qui sont aussi conçus en Bourgogne. Et j'ai ce qu'on appelle une table cocktail, qui sont ce qu'il y avait typiquement dans les bistrots, une table basse avec une vitre dessus, une télé dessous. Ce qui fait qu'on peut tranquillement boire le café ou une bière pendant qu'on joue.
Ça c'est génial. Lorsque vous faites une conférence, et je sais que vous insistez sur le fait que ce soit tout sauf un cours académique, de rappeler par exemple le Flipper Terminator ou le simulateur Cruising USA, pour ne citer que, ça aide à créer justement cette passerelle avec des personnes qui retrouveraient comme une Madeleine de Proust, par exemple.
Alors vu que je pars de la toute première console quand je fais une conférence et que je reviens à la dernière, il y a forcément une étape où les personnes sur là peuvent se reconnaître. Je parle pas trop de la partie arcade parce que c'est un petit peu plus compliqué à traiter sur le plan historique. Ça a surtout été longtemps une vitrine technologique, c'est-à-dire qu'il y avait dans les cafés des jeux qui étaient beaucoup plus beaux que ce qu'on avait à la maison. Et c'est pour ça qu'on allait au café et qu'on mettait des sous dans la borne. Aujourd'hui, si l'arcade se porte plus très bien, c'est déjà parce que nos consoles sont surpuissantes, et avoir quelque chose qui est plus beau dans un café, il va falloir une borne qui est changée beaucoup plus régulièrement, puisque ça va beaucoup plus vite. Et du coup, maintenant, il y a du mal à mettre une petite pièce pour une partie, sachant que les jeux étaient volontairement durs pour qu'on claque plus de pognon.
En même temps, il faudrait presque avoir un café thématique pour accueillir des bornes arcades où vraiment là, la spécificité du lieu serait de se replonger dans le passé et donc de jouer jusqu'à plus soif ou jusqu'à plus pièces sur des bornes.
Mais même les salles d'arcade en France ont tendance à fermer. En fait, il doit y en rester deux, si je me trompe pas. Une à Lyon, une à Paris, et même ça, ça a du mal à survivre, puisque c'est un modèle économique qui a du mal à persister.
Je pleure encore, celle de Carnac Plage. Michel de l'entreprise Jeannot et compagnie que nous avons visité pour ce reportage nous parlait hors micro du côté plus convivial qu'il y avait avec un flipper. Vous aviez au moins un pote de chaque côté pour surveiller la boule. Est-ce que ce plaisir-là se retrouve dans les jeux vidéo d'aujourd'hui, ou est-ce qu'on est un petit peu dans le schéma, ça se joue soit à deux, soit tout seul, ou alors accessoirement avec un copain qui regarde?
Sur la partie arcade ou en général?
En général, ouais, sur les jeux vidéo d'aujourd'hui.
Il y a de tout. En général, il y a des jeux auxquels on joue tout seul, plutôt des jeux narratifs où on est tranquille chez soi et on suit l'histoire. Il y a ce qu'on appelle les jeux de canapé où on est quatre copains avec des pizzas et des bières et on se met des coups de coude en jouant. Il y a les jeux en ligne. Il y a tout un panel pour maintenant que ça puisse correspondre à tout le monde.
Gaëtan Verdichizi est l'invité des gens d'ici sur France Bleu Auxerre. On parle de jeux vidéo. On se retrouve dans une poignée de secondes.
France Bleu Auxerre vous propose de mettre à l'honneur une personne qui compte pour vous. Que ce soit un ami, un parent, un voisin, une connaissance, cette personne a le cœur sur la main, elle est toujours prête à vous rendre service, rendez-lui hommage. Appelez-nous au 03 86 52 23 23 pour nous donner ses coordonnées et nous en ferons le héros du jour sur France Bleu Auxerre.
Tout France Bleu dans votre poche. La nouvelle application mobile France Bleu est disponible. Vos émissions, le direct, toutes les infos de votre région, votre France Bleu partout avec vous. Téléchargez dès maintenant la nouvelle application. Toutes les infos sur francebleu.fr.
Allez, j'y vais. Bienvenue à bord de la maison connectée. Merci d'avoir choisi Sowi, fournisseur de gaz et d'électricité. Mode électricité verte.
Confirmé.
Contrôle du chauffage à distance.
Enclenché avec l'appli Sowi.
Coût de l'énergie.
Stable pour 3 ans.
Permission de jouer à la console.
Refusé, commandant Kevin.
Découvrez Sowi, le fournisseur d'énergie avec sa station connectée à 5,99€ par mois. Conditions sur Sowi.fr. Sowi est une filiale d'EDF.
Eh ouais.
Sowi s'engage à ce qu'il y ait autant d'élec renouvelables que d'élec consommés injectés sur le réseau. L'énergie est notre avenir. Économisons.
Les gens d'ici, 10h-11h.
Le jeu vidéo est un média très jeune qui reste encore aujourd'hui relativement incompris de nombreuses personnes. C'est ce que vous écrivez sur votre site, Gaëtan Verdichizier, en guise d'introduction pour vos conférences sur cette thématique. En quoi ces personnes ne comprennent pas assez son utilité, la place que ça prend, son prix, éventuellement?
Le temps qu'on peut y passer, le public que ça peut cibler, et oui, le prix. Effectivement. On a du mal aussi à comprendre que c'est aujourd'hui une industrie qui crée plus d'emplois et rapporte plus de revenus que le cinéma, par exemple. Et on a toujours du mal à... On est dans le cliché du mec qui est dans sa cave, comme disait tout à l'heure. Alors qu'en fait, non. Enfin, j'ai plus les dernières statistiques exactes, mais il y a plus de joueuses que de joueurs. Parce que le jeu le plus vendu, c'était pendant longtemps les Sims, et c'était pas Call of Duty.
Donc on rappelle, Sims, c'était cette vie virtuelle où on animait en fait son personnage, son avatar, à travers des situations quasiment du quotidien, c'est
ouais,
ça?
Ouais, c'était un simulateur de vie, comme on appelle ça. Et c'est un jeu qui est très joué par les femmes, mais pas seulement. Et ensuite, tout ce qui est jeu Facebook, jeu téléphone, etc., je vous disais que ça comptait. Bah, tout le monde joue sur téléphone, c'est pas... Enfin, tout le monde, beaucoup de personnes jouent. Et donc, c'est pas que des gens qui vivent dans le noir et qui passent leur temps à manger des pizzas devant un écran.
Alors on parlait hors micro il y a quelques instants entre garçons de jeux vidéo et la vie de couple. C'est un véritable problème ça justement lorsqu'on est passionné par les jeux vidéo, ou est-ce que ça peut éventuellement rapprocher?
Alors ça peut rapprocher, mais c'est comme pour n'importe quelle passion, ça dépend de la mesure des choses. Si on est fan de films, il faut pas avoir des DVD jusque dans les toilettes. Et bah pour les jeux vidéo c'est pareil, faut savoir laisser de la place à la vie privée et voilà.
C'est promis chérie, je fais le ménage en rentrant. La plupart du temps, ceux qui viennent vous écouter lors de ces conférences, de ces ateliers, ce sont des personnes qui veulent découvrir quelque chose qui les dépasse, ou est-ce que ce sont des personnes qui viennent parce qu'elles en ont besoin dans le cadre de leur travail ou par nécessité familiale, entre guillemets, pour comprendre un petit peu l'univers de leurs enfants?
Il y a les deux. Il y a surtout des passionnés qui veulent en savoir un petit peu plus. Mais le public qu'on a depuis quelques années, ce qui prouve que le jeu vidéo a quand même bien évolué, c'est les parents curieux, effectivement, qui essaient de mieux comprendre les choses, savoir comment ça fonctionne. Plutôt que de le rejeter en masse en disant oui, c'est de la faute des jeux vidéo, ils viennent, ils s'intéressent comme c'est le cas pour le cinéma. J'aime bien faire le parallèle avec le cinéma. Mais je me souviens d'une dame, par exemple, qui nous a dit, bah voilà, mon fils joue à des jeux de voiture, est-ce que quand il aura le permis, est-ce qu'il va rouler très vite? Alors souvent c'est moqué, mais moi j'ai trouvé la question très mignonne, et au moins la maman a fait la démarche de venir et de s'intéresser au sujet, de comprendre comment ça fonctionnait.
Et ça fonctionne au final, les gens reviennent en vous disant je comprends beaucoup mieux maintenant?
Moi j'essaie de pas être trop technique, donc a priori oui, ça a l'air de marcher.
Gaëtan, vous êtes aussi journaliste spécialisé dans le rétro gaming, mais aussi le jeu vidéo indépendant. Qu'est-ce qu'on appelle le jeu vidéo indépendant?
Alors c'est tout ce qui est tout ce qui est pas des jeux à 70 balles que vous pouvez trouver dans les rayons de Carrefour. C'est-à-dire c'est des jeux qui sont faits par des petites équipes qui ont pris le parti de dire je vais faire un jeu qui sera plus petit, où je vais prendre plus de risques, où ils se permettent d'essayer des façons de jouer plus originales, des histoires peut-être plus engagées, et bien souvent sans avoir derrière des gros sponsors ou des gros budgets.
Vous le faites parce que le couloir est un petit peu plus large, on peut s'y faire une place, ou c'est vraiment par conviction? Parce que vous préférez davantage ces jeux vidéo, on va dire gentiment plus cheap, que les grosses machines à 70 balles?
Alors, ils étaient plus cheap au départ, c'est plus forcément le cas aujourd'hui. C'est juste que comme ils ont l'indépendance, on va dire, financière, ils peuvent se permettre de prendre plus de risques. Et c'est un peu l'héritier du rétro gaming, c'est-à-dire que le jeu vidéo ayant évolué, on joue plus de la même façon aujourd'hui qu'on jouait dans les années 90, etc. Et il y a beaucoup de jeux indépendants qui ont ce petit côté fraîcheur qu'on peut retrouver dans les vieux jeux.
Avec des histoires beaucoup plus abouties, avec des personnages aussi.
Alors maintenant, il y a des jeux qui sont quasiment des films où on joue presque pas. Il y a des jeux où il n'y a pas d'histoire. Il y a des jeux qui se permettent des univers un peu plus, on va dire, décalés, ou des choses plus engagées. Il y a des jeux vidéo politiques, il y a des jeux vidéo médicaux, etc.
Cette casquette de journaliste spécialisé, est-ce que vous diriez que ça vous permet de vous défouler davantage parce que vous vous adressez à un autre public qui est beaucoup plus connaisseur, et que c'est nettement plus agréable d'écrire pour ce public-là que de faire une conférence ou un atelier avec des personnes qui n'y connaissent absolument rien?
Non, en fait, je dirais que l'un sert l'autre. Moi, ça me sert surtout à découvrir, moi aussi. Parce que quand on est journaliste, on vient plus facilement présenter des jeux que si j'étais quelqu'un qui est monsieur lambda. Et j'ai plus le plaisir de refaire découvrir ces jeux que moi on m'a présenté à des personnes qui me disent oui, mais moi les jeux, je joue tout le temps la même chose, j'aimerais bien essayer autre chose.
France Bleu Auxerre. France Bleu.
Gaëtan Verdichizi, vous êtes né la même année que Lady Gaga, Maître Gims, Raphaël Nadal, Usain Bolt, Laure Manaudou, l'actrice américaine Megan Fox ou l'acteur britannique Jamie Bell. Lorsque viendra l'époque où, à défaut de dire tel acteur est né telle année, tel sportif, etc., et qu'on dira le créateur de tel jeu vidéo ou le joueur de jeu vidéo professionnel est né telle année, vous direz qu'on aura avancé d'une case, avancé d'un pas dans l'esprit du public?
On y est déjà, je pense. Sur les très célèbres, on peut citer Miyamoto chez Nintendo ou David Cage. Mais il y a encore trop de gens dans l'ombre. Mais effectivement, il y a ce côté qui est en train de sortir de l'ombre. Et on met en avant les créateurs autant que les œuvres.
Quand j'ai évoqué autour de moi votre venue dans cette émission à l'occasion de la Journée mondiale du jeu vidéo, plusieurs se sont étonnés. Ah, il y a une journée pour ça? Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de boulot?
Il y a du boulot, mais ça avance vite, donc on n'a pas trop à se plaindre. Il y a eu une espèce de déclic à un moment où on s'est dit bah tiens, il y a peut-être quelque chose d'en faire, moyen d'en faire quelque chose. Surtout à partir du moment d'une reconnaissance de l'État. Étape 1, reconnaître, étape 2, taxer. C'est par exemple le jeu vidéo en tant que sport, l'e-sport a été reconnu, c'est pas pour rien, c'est parce que les joueurs ils pouvaient gagner jusqu'à 10 000 euros par mois. Donc l'État se dit, il y a 10 000 euros qui passent et moi je me graisse pas, ça me plaît pas trop. Et à partir du moment où l'État valide les choses, bah forcément tout s'accélère.
Alors il y a des rendez-vous beaucoup plus modestes et qui ont lieu aujourd'hui même, ce samedi 25 novembre, le Festival du jeu d'Angoulême, le Nogent Game à Nogent-sur-Seine ou encore le tournoi amateur FIFA 18, ça c'est à Montargis. Vous aimez traîner dans ce genre de rencontres, autant pour le plaisir que pour le travail?
Oui, les deux. C'est l'occasion de rencontrer d'autres passionnés, pas forcément être la casquette travail, justement être la casquette passionnée et pouvoir discuter. Sans avoir à se dire tiens, il faut que je fasse ça à telle heure, mais vraiment prendre le temps de se promener et de découvrir peut-être encore d'autres choses que je connaissais pas.
Et puis tenez, puisque nous parlons de divertissement, de culture et accessoirement de cinéma, et à l'attention de ceux qui s'imaginent que Sylvester Stallone en fait largement partie au même titre qu'un Mario ou un Rick Dangerous de salon, voilà un petit clin d'œil musical à propos de votre année de naissance, Gaëtan. Vous poussiez vos premiers cris quand votre humble serviteur s'éclatait devant la Mercury 50 et le Colt 911 de Marion Cobretti, alias Cobra, dans le film de George Pan Cosmatos. 6 nominations au Razzie Award, 50 méchants descendus à la sulfateuse en un quart d'heure par Sly. Beau score. Et pour la bande originale, voici la voix de Jean Beauvoir qui chante Feel the Heat. C'est pour l'invité des gens d'ici ce matin sur France Bleu Auxerre.
Has it?
avec Feel the Heat, extrait de la bande originale du film Cobra, film basé sur le roman de Paula Gosling qui avait été adapté 10 ans plus tard. Le film Fair Game avec Cindy Crawford, mais qu'elle n'avait quand même. Gaëtan Verdier-Chizy, ça vous fait rire. Une autre corde à votre arc, et vous en parliez, en plus du jeu vidéo, c'est le cinéma. En même temps, l'un va pas sans l'autre.
C'est très très lié sur les deux, autant sur le côté, on va dire, culturel que sur le côté histoire. Les débuts du cinéma ont été perdus dans les limbes et on les retrouvera jamais. Et les débuts du jeu vidéo, c'est pourtant pas si vieux, mais il y en a quand même une grande partie qui est passée à la trappe aussi et qu'on retrouvera sans doute jamais.
À bon entendeur, salut.
France Bleu Auxerre.
Alors autant nous parlions de jeux vidéo à l'occasion de votre venue dans nos studios ce matin, Gaëtan, autant nous allons nous pencher sur quelques conséquences moins agréables qu'un score sous zéro sur console, l'addiction, ça en fait partie. Claire Yernaud, psychologue, et Stéphane Baguelou, chef de service du Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie à Auxerre, nous parlent des effets et des signes sur cet abus à certains jeux, peut-être plus aujourd'hui qu'hier d'ailleurs.
Pour synthétiser, je dirais que voilà, c'est ça, une addiction, on peut plus passer d'un produit ou d'un comportement avec des conséquences plus ou moins graves.
On a la notion de répétition, de perte de contrôle et de continuer à répéter une conduite malgré les incidences négatives au détriment de ses obligations, de ses loisirs. Et aussi, on a un phénomène de ce qu'on appelle du craving, c'est-à-dire on ne peut pas s'empêcher de reproduire ce comportement. On a aussi un phénomène de tolérance, c'est-à-dire que le même comportement va produire des effets moins importants où il va falloir augmenter l'intensité ou la durée du comportement pour avoir le même effet. Et tout ceci, ça peut induire aussi avoir des répercussions sur les relations sociales.
Alors le jeu vidéo, quand il est utilisé sans contrôle, sans limite, les gens vont s'isoler en fait hein, d'un monde virtuel et peuvent devenir irritables si on les empêche de jouer. Ils oublient les horaires, hein, y a plus d'horaires pour manger, pour dormir. Et du coup, ça a des répercussions sur l'organisme, mais aussi sur les relations au niveau de l'environnement familial et scolaire pour les jeunes notamment.
Et par quoi est-ce que ça commence? Est-ce que ça commence par la fréquence à laquelle on joue à ce jeu vidéo? Est-ce que c'est notre attitude en général, ou est-ce que ça peut être le jeu en lui-même?
Je pense pas que ce soit la nature du jeu. Hein. Pour moi, c'est la manière dont on va l'utiliser. À partir du moment où il n'y a pas du tout de cadre, on imagine qu'un parent fixe un délai de jeu. C'est 1 heure ou 2 heures par jour, grand maximum. On reste dans un cadre précis, voilà. Après, s'il n'y a pas du tout de limite, là, après, ça peut devenir addictif.
Match à mort par équipe. Exo activé. Éliminez les ennemis.
Après, il existe des jeux où c'est beaucoup plus difficile de quitter la partie. Il y a les jeux en ligne multijoueurs. Là, quand on quitte la partie, le jeu continue. Et donc, c'est d'autant plus difficile de se fixer des limites. Et c'est plus facile de rentrer dans une pratique excessive, en fait.
Après, il y a des gens qui ont des terrains, ce qu'on appelle des terrains plus fragiles au niveau psychologique aussi, qui peuvent être perturbés peut-être plus rapidement que d'autres sur une utilisation constante et répétée.
À quoi est-ce qu'on reconnaît qu'une personne est dépendante ? Aux jeux vidéo.
Alors il y a une accumulation de signes, des difficultés à s'éloigner de l'écran pendant plusieurs jours ou pendant les vacances. Si on essaye de réduire son temps de jeu et qu'on n'y arrive pas, si il y a des périodes d'insomnie, les gens n'arrivent pas à se lever, tous ces facteurs accumulés peuvent induire à un moment donné qu'on a un comportement. Alors avant de parler de l'installation d'une addiction, je vais voilà. Après nous à la NPA, on a aussi cette habitude de travailler avec la réduction des risques, donc de voir aussi des gens qui sont pas forcément encore dépendants, mais qui ont des conduites à risque. Où là, on va travailler un peu en amont, finalement, avant qu'une addiction s'installe.
Faut pas oublier qu'au début, le jeu, il est pour ludique, il a aussi une fonction positive, il va stimuler aussi au niveau cognitif, il n'est pas que addiction. Au départ, c'est un plaisir, c'est aussi une autre forme de relation sociale, et c'est une vocation ludique.
Allez, c'est bon. Attends, regarde. Non, non.
Il faut que ça reste ludique et si possible avec plusieurs camarades. Pour plus d'informations sur les risques du jeu vidéo mais aussi d'internet, c'est au cœur des préoccupations du Centre de soins d'accompagnement et de prévention à Auxerre. Les coordonnées sont disponibles sur notre site internet à la page des gens d'ici. Ce danger de l'addiction, Gaëtan Verdier-Chizy, je pense que vous êtes assez bien rodé sur le sujet, vous qui avez fait un mémoire sur le thème « Le jeu vidéo peut-il être considéré comme une nouvelle pratique scientifique et culturelle ?» Et vous me disiez pendant ce reportage, en fait, l'addiction aux jeux vidéo, ça vient pas des jeux en réseau. Ça date d'il y a bien plus tôt.
Alors c'est plus vieux que ça. Déjà le terme d'addiction aux jeux vidéo est pas forcément validé par tout le monde, y compris les centres d'addictologie. J'en ai parlé avec celui de Dole par exemple. Il y a le psychologue pour enfants Serge Tisseron qui dit que c'est pas une addiction, c'est une mauvaise habitude. Qui va un peu faire la différence entre les deux. Le véritable danger qui est cité dans le reportage, c'est le danger d'isolement. Si votre enfant va tous les jours jouer au ballon dehors, mais qu'il est tout seul pendant 2 heures, ça va pas vous choquer. Alors que s'il va jouer 2 heures sur l'ordinateur à un jeu en ligne, comme on aime bien les pointer du doigt, il est pas en danger d'isolement puisqu'il parle avec d'autres gens sur les jeux en ligne. Il y a des codes comme dans n'importe quel milieu social. Il faut dire bonjour, faut être poli, etc. Donc il a une interaction sociale, il y a pas de danger d'isolement.
C'est une question de point de vue en fait.
C'est une question de point de vue de la personne qui va regarder ça à l'extérieur, effectivement. Il faut juste voir si le joueur est quelqu'un qui joue vraiment tout seul dans le noir. S'il joue un jeu, effectivement, s'il joue 8 heures par jour à GTA et qu'il parle à personne, il y a un danger. S'il joue 8 heures par jour et qu'il vous raconte ce qu'il a fait en mangeant à table, j'ai fait ça, vous pouvez discuter, il n'y a pas de danger d'isolement.
Lorsque vous animez des ateliers jeux vidéo, est-ce que votre choix va davantage se tourner vers des jeux plus ludiques, pour ne pas dire plus anciens, pour essayer justement qu'il y ait une distance vis-à-vis des jeux d'aujourd'hui et qu'on s'aperçoive de certaines vertus de la part de ces jeux?
Alors pas forcément des plus vieux, mais effectivement je pars sur des choses peut-être moins connues. On va dire que souvent ce qui est mis en avant, on va parler des jeux de guerre. Les jeux de guerre, c'est un peu ce qu'on voit à la télé, mais c'est pas forcément ce qui se vend le plus. Le jeu vidéo le plus vendu actuellement, c'est Minecraft, qui en fait une espèce de gros Lego. Pendant des années, ça a été les Sims, qui est un simulateur de vie. Donc ce qui est le plus connu, c'est ce qu'on voit le plus à la télé, c'est pas forcément ce qui vend le plus, c'est ce qui est joué le plus.
Une autre de vos casquettes, un comble pour un homme qui aime porter les chapeaux, c'est consultant jeux vidéo, Gaëtan. En quoi consiste ce poste et est-ce que le souci du bien-être du joueur ou futur joueur, est pris en compte?
Alors, consultant. Je suis consultant à plusieurs niveaux. Je file un petit coup de main sur des studios indépendants, sur le développement du jeu, enfin pas sur le plan technique, mais plus sur de la com ou de la façon de présenter le jeu. Et je bosse aussi beaucoup en bibliothèque et médiathèque qui, eux, sont en train d'intégrer le jeu vidéo de la même façon qu'ils ont intégré du DVD ou du CD il y a quelques années. Et si on veut de la musique, on appelle la SACEM. Si on veut du cinéma, on appelle le CNC. Et si on veut du jeu vidéo, il n'y a personne. Il n'y a pas d'institution française, il n'y a rien du tout. Donc je fais un peu tampon pour l'instant, jusqu'à ce qu'on ait une reconnaissance nationale. Et donc oui, c'est de leur montrer que il faut quand même mettre un jeu pour attirer. Donc souvent on met un FIFA, ça permet d'attirer un petit peu les joueurs.
Mais FIFA, jeu de foot. Hein.
Voilà, un jeu de foot. Mais derrière eux, on met un deuxième écran avec un truc pas connu, et le joueur va forcément faire la transition ou normalement il va se retourner et dire tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et il va s'intéresser parce que tout joueur est naturellement curieux.
Et donc le souci du bien-être, ça va venir de la curiosité en fait, et le fait de découvrir quelque chose de nouveau.
C'est ça. Et après, en découvrant quelque chose de nouveau, il va se dire ah tiens, je connaissais pas, il y a ça, mais il y a d'autres, et on va développer vraiment une partie culture du jeu vidéo, comme on peut développer une culture du film ou du livre ou de n'importe quel média culturel.
Gaëtan Verdichizi est l'invité des gens d'ici jusqu'à 11h sur France Bleu Auxerre. On va parler justement de jeux vidéo et d'une belle découverte, A Blind Legend. C'est un film pour les personnes mal et non voyantes. On en parle dans quelques minutes. France Bleu.
Faites le plein de cadeaux avec France Bleu Auxerre.
Cette semaine, nous vous offrons un vol pour deux en montgolfière. Pour jouer, rendez-vous sur notre site internet France Bleu Auxerre. Postez-y une photo de groupe entre amis ou en famille. Si vous êtes tiré au sort, à vous la découverte de la Puisée et de l'Auxerrois vue du ciel. Bonne chance!
Et si on pensait au Roquefort? Aujourd'hui, pour le déjeuner, c'est fromage et dessert. Une belle tranche de Roquefort, quelques grains de raisin, des noix, une demi-figue et encore du Roquefort. C'est simple, c'est vrai, c'est tellement bon. Roquefort, le goût haut et fort. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Il suffit de 6 numéros. Ce samedi, jackpot loto de 10 millions d'euros et 10 gagnants à 20 000 euros tirés au sort. Voir règlement. FDJ, jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
France Bleu Auxerre. France Bleu.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me?
I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Talk about myself, I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time.
Hello sur France Bleu Auxerre. Il n'est pas encore le temps de dire goodbye à l'invité des gens d'ici, Gaëtan Verdichizi, qui est là pour nous parler de jeux vidéo. Nous sommes ensemble encore jusqu'à 11h.
Les gens d'ici, 10h, 11h.
Et on va revenir sur une initiative rare et qui se passe dans Lyon, à la médiathèque de Sens. C'est là que le public peut tester un jeu vidéo d'un autre genre, puisque destiné au départ aux personnes mâles et non-voyantes. C'est le cas de Alison, qui fait partie désormais des lectrices de ce lieu, qui est devenue redoutable en incarnant le personnage principal de A Blind Legend, un projet soutenu par France Culture. Il ne nous en fallait pas plus pour avoir envie d'en savoir davantage, aux côtés de Monique Jarry, responsable de l'espace multimédia de la médiathèque, elle aussi fortement impressionnée par le potentiel de ce jeu et de sa protégée.
Domino et France Culture présentent.
Allez, ouvrez !
A Blind Legend.
Je pense que Alison connaît vraiment mieux l'histoire que moi.
D'accord. Alors, Alison, quelle est l'histoire ?
Alors, en fait, c'est un chevalier, Edward Blake, qui est aveugle, et sa fille le guide pour avancer dans le jeu et tout. Et en fait, sa femme, à Edward Blake, se fait emprisonner par rapport au roi Torg, Blake. Il s'enfuit, il va récupérer son épée et tout. Et après, par la suite, en fait, il commence à faire son aventure.
Chevalier Blake, mon père a fini votre épée. Il vous attend à la forge.
Pour dégainer ou rengainer votre épée, appuyez sur X.
Vous en parlez d'une manière très 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 simple, alors que dans la pratique, et je sais de quoi je parle, c'est nettement plus difficile que ça les premières fois.
Pour les personnes voyantes, oui, parce que soi-disant l'écran, il n'y a rien d'affiché.
Non, l'écran reste gris, il y a une légère brume gris foncé qui bouge un peu, mais il n'y a aucune image.
On y va, tout droit. On est obligé de mettre un casque pour y jouer correctement, pour pouvoir faire la différence entre la gauche, la droite est droite devant nous, mais j'ai vite compris. Et je l'ai pris gratuitement au début sur mon ordinateur portable. Et j'avais adoré, j'ai terminé le premier chapitre, j'ai fait « pas possible, faut que je l'aie ».
Vite Louise, en selle !
Certains moments où j'ai eu un peu de mal à jouer, parce qu'il y a des moments où c'est des terres insensibles, donc il faut aller doucement, il faut faire attention à ce que la petite dit.
Guide-moi, pour éviter les arbres !
À droite ! Même en combat, c'est pareil, il faut faire attention parce qu'il y a différents systèmes. Au fur et à mesure, ça devient de plus en plus dur.
Est-ce que vous avez l'impression que ça vous aide dans votre quotidien sur le fait de bien repérer les sons, de bien savoir vous orienter?
Parce que je savais déjà faire. J'avais déjà ça. Donc c'est pour ça que ça a été facile de me mettre dans ce jeu-là et à me repérer facilement.
Monique, est-ce qu'il y a des personnes voyantes qui utilisent ce jeu, qui essaient ce jeu, à part moi, aujourd'hui?
Il y a une retraitée qui est venue et un jeune de 16 ans. Verdict de ces personnes, c'était un peu compliqué pour la personne qui est retraitée. Mais par contre, son petit-fils a trouvé ça très intéressant.
Ah oui.
La contrepartie de cette donation, c'était de faire connaître le matériel pour faire venir ses publics à la médiathèque. Et donc, j'ai cherché des jeux. Il y a un stagiaire qui est venu, que j'avais missionné pour chercher aussi de son côté. Et on a trouvé ce jeu Blind Legend.
Et moi aussi.
Voilà.
J'ai aussi fait la mission.
Donc, on a missionné Alison pour faire le cobaye et tester ce jeu.
Dans ce jeu, Blind Legend, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le déroulé de l'action? Ce sont les moments d'orientation, les moments de combat?
Tout. Comme c'est une de mes passions par rapport au Moyen-Âge, c'est d'incarner un chevalier. J'adore, quoi. Surtout que je connais la fin de l'histoire.
On peut désormais endosser la peau d'un héros du Moyen-Âge aveugle grâce au jeu A Blind Legend qui est disponible à la médiathèque de Sens. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site France Bleu Auxerre à la page des gens d'ici. Un jeu vidéo qui permet à des personnes de dépasser leur handicap. Ce n'est pas une première, Gaëtan Verdichizi?
Non, ce n'est pas une première, y compris pour les aveugles.
Et donc, vous me disiez que par rapport au travail du son qui a été fait sur A Blind Legend, on doit ça à une société bourguignonne. Hein.
C'est un studio dijonnais qui s'appelle David Kincode, qui a travaillé sur ce qu'on appelle la spatialisation du son. C'est-à-dire que quand on met les écouteurs ou le casque, on sait précisément où est la personne qui nous parle, la petite fille en l'occurrence, qui sert de guide pour le jeu. Et sa boîte de la stéréo, on sait précisément où elle est sans avoir besoin d'un casque 5.1 ou 7.1 ou...
Alors devant vous, un jeu vidéo qui a été amené par notre collègue et très branché jeu vidéo Lionel Godino. Donc c'est un jeu vidéo là aussi pour aveugles. Donc vous le disiez, ça remonte encore à il y a quelques années. Même sur console, c'était possible.
Celui-là est marqué 1997. C'était sur Saturn. Alors c'est malheureusement pas sorti en France, c'était uniquement au Japon, mais c'était déjà une première à l'époque, donc ça date pas d'aujourd'hui.
Et avant 1997, il y a déjà eu ce genre de jeu pour les personnes mâles ou non-voyantes?
Pas à ma connaissance, mais peut-être un prototype rangé quelque part qu'on découvrira un jour.
Est-ce que c'est pas là non plus qu'on doit voir en ces jeux vidéo ces vertus? La personne qui n'a plus l'usage de ses yeux peut s'aventurer à combattre des méchants dans la forêt. La personne qui n'a plus l'usage de ses jambes peut entrer dans la peau d'un caractère bondissant à l'image de Sonic. C'est ça aussi la force du jeu vidéo.
Ben, l'avantage, c'est qu'on peut l'adapter au joueur et c'est pas au joueur de s'adapter. Donc ça se développe de plus en plus sur ces dernières années. Par exemple, le mois dernier à Dijon, j'organisais une game jam, qui est un concours de création de jeux sur deux jours. Et dans les conditions, on avait imposé aux participants de faire un jeu qui soit accessible à un public déficient. Ils choisissaient eux-mêmes ce que c'était. Alors souvent, on cite les malvoyants, les daltoniens, les sourds, et ça se développe de plus en plus des jeux pour eux. Parfois, c'est pas le cœur du jeu. Il y a un autre jeu français qui s'appelle Archquad, qui est pas très connu, qui est un puzzle game sorti sur Windows Phone. Et il a un mode exprès pour les daltoniens, qui fait que si on est daltonien, on peut jouer alors que c'est un jeu qui est basé sur la couleur au départ.
Dans les jeux vidéo, il y a aussi de nombreux personnages qui sont repérables par une forme de handicap. Le fauteuil roulant du docteur Emmerich dans Metal Gear Solid, Nathan dans Bionic Commando. On a aussi Kota dans le jeu Star Wars. De votre point de vue, c'est un besoin, ça part d'un besoin spécifique chez les concepteurs de jeux vidéo, ou est-ce qu'il y a une forme de message, un peu comme certaines générations se plaisaient à se prendre pour Daredevil dans les comic books américains ou le professeur Xavier chez X-Men?
Je pense que c'est lié pour chaque jeu à l'histoire du personnage. Habituellement, quand il souffre d'un handicap, c'est pour justifier un certain caractère ou un certain trait d'histoire. C'est rarement gratuit.
Gaëtan Verdichizi, on vous retrouve dans quelques instants pour la dernière ligne droite de cette émission. Mais justement, on va jouer ensemble.
France Bleu Auxerre, 100% Agia.
Amoureux du foot, rendez-vous tous les lundis de 18h30 à 19h sur France Bleu Auxerre. Pour tout connaître de l'actualité de la JOCR, c'est 100% Agia.
Avec nos invités, on décrypte le dernier match, on vous emmène dans les coulisses et on vous donne les dernières infos. On attend également vos coups de cœur, vos cartons rouges et vos questions sur le Facebook de France Bleu Auxerre.
100% Agia, l'émission 100% foot, tous les lundis, 18h30, 19h sur France Bleu Auxerre.
Partagez votre club sur France Bleu Auxerre avec 100% Agia.
France Bleu présente la nouvelle édition de son almanach des Terres de France. Une invitation au voyage en quête des trésors cachés de nos régions. Partez sur les plus beaux chemins de France et découvrez toutes les saveurs de nos terroirs. 320 pages d'histoire et d'anecdotes abondamment illustrées. À chaque jour, ses recettes, ses astuces pratiques et ses conseils bien-être. L'Almanach des Terres de France 2018, un ouvrage indispensable qui vous accompagne tout au long de l'année. Une coédition France Bleu.
Tu fais quoi pour Noël cette année ?
Alors j'emmène toute la famille dans le Grand Nord.
Génial ! Ah mais ça a dû te coûter une fortune.
Oh, trois fois rien ! Des étoiles lumineuses, des petits lutins à suspendre, plein de bougies et des pots de mouton pour réchauffer le tout. On se croirait vraiment dans la maison du Père Noël.
Cette année avec IKEA, inventez le Noël de vos rêves à petit prix. Rendez-vous vite dans votre magasin et sur IKEA.fr pour découvrir la nouvelle collection de Noël. Comme la suspension étoile Strola à 8,99€.
IKEA !
France Bleu Auxerre.
Plus que quelques instants à partager avec vous, Gaëtan Verdichisi, journaliste et consultant en histoire mais aussi culture du jeu vidéo. Sur votre site Pixel et Bœuf Bourguignon, vous lanciez en juillet dernier un appel à soutien pour vous rendre au Gamescon. On imagine que c'est l'équivalent du Comic-Con, mais pour ceux qui ne connaissent ni l'un ni l'autre, vous allez nous dire ce que c'est.
Alors la Gamescom, c'est le plus gros salon mondial du jeu vidéo, qui est passé devant l'E3, qui a été pendant des années le plus gros salon voilà, puisqu'il était réservé aux pros. Pour faire un parallèle, on va dire que vous prenez Paris Games Week, si vous voyez ce que c'est. Donc c'est un gros salon jeux vidéo à Paris, et vous multipliez la taille par 10, et vous rajoutez une zone business, et voilà, vous avez la Gamescom.
Et qu'a donné cet appel au soutien ? Vous avez fini par y aller ?
Oui, oui, bah, en fait j'y vais dans tous les cas, c'est juste que ça me permet de pas avoir à vendre une jambe ou un bras pour y aller.
Mais, vous seriez prêt à ça, sérieusement ?
Ça serait compliqué après si je vends un bras pour jouer. Donc, mais c'est le rendez-vous, en Europe du moins, c'est le rendez-vous à pas manquer si on veut découvrir ce qui se fait, et pas que sur les gros jeux justement, sur tout ce qui est jeux indépendants, tous les petits studios se déplacent là-bas. Les petits studios, par exemple, polonais, qui n'ont pas les moyens d'aller jusqu'à Los Angeles pour l'E3, vont à la Gamescom. Des petits studios espagnols, italiens, où il y a encore beaucoup de choses à découvrir et qui sont rarement mis en avant.
Plus près de nous et à taille plus modeste, vous serez mercredi prochain à Autun pour le numérique pour tous. Toutes ces interventions, activités dans la bulle grandissante du jeu vidéo, ça vous prend énormément de temps. Quand vous regardez votre agenda, vous vous dites parfois « j'arriverai jamais à tout faire ».
C'est par période. Le mois d'octobre, souvent, c'est assez compliqué, alors que le mois de janvier est plutôt calme. Mais
parce que octobre, c'est la période où sortent les jeux, justement.
Non, c'est parce que je travaille beaucoup pour les services publics. Et octobre, c'est le moment où ils vident leur enveloppe. Et au début de l'année, ils doivent pas user le budget. Et à la fin, ils doivent le vider.
Vos projets à long terme, la création d'un jeu vidéo
non.
De A à Z.
Non, je fais des ateliers où j'apprends aux enfants à faire des jeux vidéo sans la moindre ligne de code, mais plus sur l'aspect découverte. Par contre, je ne me sens pas de faire un jeu, du moins pas tout seul et pas dans l'immédiat, c'est pas dans mes projets.
Bon, à défaut de vous offrir un poste chez Argonaut Games ou Electronic Arts, je vous propose un bien moindre présent, Gaëtan, mais qu'il va falloir mériter, parce qu'il n'était pas question quand même de vous faire venir sans vous faire passer par ce quiz, un quiz qui tourne autour du jeu vidéo, et c'est quelques sons ou musiques qu'on connaît sans jamais pouvoir réellement les identifier. Peut-être vous êtes prêt, Gaëtan ?
On va essayer.
C'est parti.
Ça, c'est le déplacement dans Space Invaders.
1978, gagné. Deuxième extrait.
Street Fighter.
Si vous me dites quel numéro, c'est trop fort.
Je pense que c'est le premier, mais... C'est le 2 ?
C'est le numéro 2, 1991. Troisième extrait, un peu plus difficile. Un classique français, 1987.
Mais je reconnais, mais je vois pas ce que c'est. Mais
on
je sais que je connais.
On a bousillé notre Atari 520 ST dessus. Le manoir de Morteviel.
Oui.
Une affaire d'enquête assez hallucinante et avec des voix vocales qui étaient assez hallucinantes elles aussi. Allez, un autre. Il y a la petite musique à la fin qui devrait vous mettre sur la piste. Généralement, on la reconnaît entre mille.
Ah non, je l'ai pas du tout celui-là.
Pang, 1989, un petit bonhomme qui se baladait, qui lançait des flèches
ah
sur
oui, je
une
vois
boule,
Pang, oui.
Et ensuite ça se répartissait en plusieurs boules et ça rendait dingue.
Bah, j'y ai joué, mais j'avais pas la musique parce que c'était sur le banc d'arcade et il y avait plein de musique autour et des
bon,
bières. Alors
l'honneur est encore sauf avec le dernier extrait. Facile. Charlotte Lalanne a reconnu.
C'est pas spécifiquement jeu vidéo.
C'est pas spécifiquement jeu vidéo, ça peut être série télé ou encore cinéma.
Ouais, ça ressemble vachement du cinéma quand même.
Star Trek,
oui.
1987 pour The Rebel Universe. Eh bien, c'est pas mal, on a 3 points. Avec ce générique de cette fantastique série, ça me permet de faire le lien avec ce que je vous promettais tantôt pour vous dire qu'on est.